Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chardon.
Alors, l'interdiction par la Commission européenne de la fusion Alstom-Siemens, par la Commission européenne, a fait rebondir le débat sur les champions européens. On en est où ?
Il y a 10 ans, parmi les 100 plus grandes sociétés du monde, on en comptait 28 établies en Union européenne. À présent, il n'en reste plus que 12. Certes, nous avons pris un sérieux train de retard sur le numérique, où les GAFA américaines dominent. Certes encore, la montée en puissance de la Chine a bousculé sacrément ce palmarès. Que l'on prenne pour critère le chiffre d'affaires, la rentabilité, le nombre d'employés ou bien la capitalisation boursière, ce sont en effet des entreprises américaines et chinoises qui dominent et du coup, on reparle de la nécessité de faire émerger des champions européens. En décembre dernier, les dirigeants de la Confindustria italienne, de la Chambre d'industrie allemande, de son équivalent espagnol, ainsi que celui de France Industrie, ont co-signé une lettre ouverte au ministre de l'Industrie de l'Union européenne. Ils les appelaient à adapter les règles européennes aux nouveaux défis posés notamment par les mesures protectionnistes décidées par Trump. Ils leur demandaient de favoriser l'émergence de leaders européens dans les filières naissantes telles que la microélectronique, les batteries, les biomatériaux, les protéines ou la cybersécurité. Ils ont, semble-t-il, été entendus. Le 18 décembre dernier, à Paris, 19 États membres de l'UE ont appelé, je cite, à une nouvelle impulsion politique favorisant la compétitivité européenne sur les marchés mondiaux. Ils attendent de la prochaine Commission européenne, celle qui succédera aux élections au Parlement européen de mai prochain, une stratégie industrielle volontariste, afin de promouvoir, disent-ils, les intérêts et les valeurs de l'Union européenne. Et de leur côté, les ministres chargés de l'industrie de 5 pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, ont co-signé le 26 février un appel à une politique industrielle plus ambitieuse, soutenue activement par la Commission, visant à assurer la compétitivité de nos entreprises. Ces ministres réclament aussi, je cite, une politique commerciale équilibrée, fondée sur la réciprocité et les bénéfices mutuels, sans naïveté. Ils insistent pour que la prochaine Commission contrôle mieux les investissements en Europe de puissances extra-européennes, surtout comme la Chine, celle qui refuse catégoriquement la réciproque. Bref, les mentalités, vous le voyez, sont en train de changer et la Commission européenne actuelle apparaît avec un métro de retard.
Et c'est vrai qu'en effet, pendant longtemps, l'idée d'une politique industrielle devant donner naissance à des géants nationaux a été considérée par nos voisins en Allemagne, en Grande-Bretagne, comme une lubie étatiste des Français.
C'est vrai, mais les Britanniques s'en vont et l'industrie allemande, hier encore si glorieuse, bat de l'aile aujourd'hui. Là-dessus, l'interdiction émise par la Commission européenne face à la perspective du mariage entre le français Alstom et l'allemand Siemens dans la ferroviaire a sérieusement remis le sujet sur le tapis. L'Union européenne doit-elle assouplir ses règles dans le domaine des fusions-acquisitions ? Celles-ci, rappelle l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, ont été conçues à une autre époque. Il s'agissait alors d'éviter la constitution d'oligopoles à la faveur de rapprochements entre d'ex-monopoles publics nationaux. On n'en est plus là du tout aujourd'hui. Pourtant, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. C'est ce qu'explique notamment Charles Viploche sur le site Telos. Face à ces problèmes, existent en effet 2 attitudes opposées. Les uns se croient réalistes, ils soulignent ce que le développement de nos concurrents chinois ou américains doit aux interventions de leurs propres États. Ils estiment que dans certains secteurs, les coûts de développement sont tellement élevés que seules des entreprises géantes sont capables de les absorber, ce qui implique donc l'aide directe ou indirecte des États. Et voilà pourquoi il ne reste que 2 compagnies aériennes dans l'aéronautique aujourd'hui, Boeing et Airbus, en attendant l'arrivée des Chinois. Et ils traitent de naïfs ceux qui leur opposent l'argument des prix. Pourtant, en autorisant la création de mastodontes industriels, on bloque la concurrence. Et ces entreprises ne sont plus incitées à baisser leurs prix. C'est le consommateur qui est donc perdant. Et il l'est doublement, puisque en tant que contribuable, c'est aussi lui qui paye les investissements nécessaires à la création de ces fameux champions. En outre, ces géants, en situation de monopole, sont moins incités à innover. Dernier argument contre les subventions publiques aux champions, les États ne sont pas mieux placés que les marchés pour déterminer qui, parmi les jeunes pousses, sera demain Amazon ou Apple. Ces firmes, on le sait bien, se sont développées justement grâce à des capitaux privés et seulement privés. Pas si simple, observe Viploche. En fait, tous les États subventionnent directement ou indirectement certaines entreprises. En Chine, le secteur public et le privé se confondent complètement. Aux États-Unis même, la recherche est largement le fait des universités qui sont en partie financées par le secteur public.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à retrouver, à réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr.